Il avait également vu son propre cadavre en de multiples points de la trame du temps, mais il n'avait jamais assisté à sa mort. Cet homme m'est-il demeuré caché parce qu'il est précisément celui qui doit me tuer ? Se demanda-t-il. Cette pensée lui amena un sentiment d'appréhension. Il détacha son attention de Fenring et observa les Sardaukar, leurs visages amers, désespérés. Parmi eux, certains étaient vigilants. Ils examinaient et sondaient la salle en quête d'un moyen qui leur permettrait de changer la défaite en victoire. Finalement, le regard de Paul se posa sur une grande femme blonde aux yeux verts, d'une beauté patricienne. Son visage plein de dignité ne portait aucune trace de larmes. Paul sut aussitôt qui elle était. La princesse royale Bene Gesserit Irulan, dont le visage lui était apparu dans bien des situations. La clé du trône, se dit-il. Puis il se produisit un mouvement au sein de la suite impériale et un homme en émergea. Tufir Hawat. Ses lèvres étaient toujours aussi noires dans son visage ancien, ses épaules toujours aussi voûtées, son apparence aussi fragile. Voici Tufir, dit Paul. Qu'il aille librement, Gurney.
Monseigneur,
qu'il aille librement, répéta Paul. Gurney acquiesça. Hawat s'avançait. Une lance Fremen se releva, puis se rabaissa derrière lui. Ses yeux chassieux étaient fixés sur Paul. Il cherchait, mesurait. Paul fit un pas en avant et perçut la tension, l'attente de l'empereur et de ses gens. Le regard de Hawat se porta au-delà de Paul et il dit
« Dame Jessica, je n'ai appris qu'aujourd'hui quelle était mon erreur. Il est inutile de me pardonner. »
Paul attendit. Sa mère demeurait silencieuse. « Tufir, mon vieil ami, dit-il, comme tu le vois, je ne tourne le dos à aucune porte. »
« L'univers est plein de portes, dit Hawat.
Suis-je le fils de mon père ?
Tu ressembles plus à ton grand-père, dit Hawat d'une voix rauque. Tu en as le regard et les manières.
Pourtant, je suis le fils de mon père, dit Paul. Je te le dis, Tufir. Pour toutes ces années où tu as servi ma famille, tu peux maintenant me demander ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Est-ce ma vie que tu veux ?
Elle est à toi.
Et il fit encore un pas en avant, les mains au long du corps. Il vit alors la compréhension qui s'éveillait dans le regard de Tufir.
Il sait que j'ai deviné le piège, pensa-t-il.
Il réduisit alors sa voix à un simple chuchotement qui ne pouvait être perçu que de Hawat.
Je parle sincèrement, Tufir. Si tu dois me frapper, frappe maintenant. Je voulais seulement reparaître une fois devant toi, mon duc, dit Hawat.
Et Paul, pour la première fois, vit l'effort que faisait le vieil homme pour ne pas tomber. Il s'avança, le prit par les épaules et sentit frémir les muscles sous ses doigts.
Tu souffres, mon vieil ami ? Je souffre, mon duc, mais le plaisir n'en est que plus grand, dit Hawat.
Il se tourna à demi entre les bras de Paul, tendit sa main gauche, la paume vers le haut, en direction de l'empereur, et révéla l'aiguille minuscule serrée entre ses doigts.
Vous voyez, Majesté. Vous voyez l'aiguille de votre traître. Croyez-vous que celui qui avait voué sa vie au service des Atreides pouvait leur offrir moins que cela aujourd'hui ?
Paul trébucha comme le vieil homme s'effondrait entre ses bras. Il reconnut la flaccidité de la mort. Lentement, il étendit Hawat sur le sol, puis se redressa et d'un geste ordonna à ses gardes d'emporter le corps. Un silence total s'était établi sur le grand hall. Paul regarda l'empereur et lut enfin la peur dans ses yeux, une expression d'attente angoissée sur son visage. Majesté, dit-il. Il vit l'expression de surprise de la princesse royale. Il avait mis dans ce mot qu'il venait de prononcer les intonations contrôlées du Bene Gesserit, afin qu'il fût chargé de tout le mépris possible. « C'est bien une Bene Gesserit, songea-t-il. » L'empereur s'éclaircit la gorge et dit
« Sans doute, mon sujet respecté croit-il maintenant que tout s'arrange selon ses désirs. Mais rien ne saurait être plus faux. Vous avez violé la convention, usé des atomiques contre… » J'ai usé des atomiques contre un obstacle naturel du désert, dit Paul. Il se trouvait sur mon passage, Majesté, et j'avais grande hâte de vous joindre afin de vous demander quelques explications sur vos étranges activités. L'armada des grandes maisons attend dans l'espace au-dessus d'Arrakis en ce moment même, dit l'empereur. Il me suffit d'un mot pour...
Ah oui, dit Paul. Je les avais presque oubliés.
Son regard se porta sur les gens de la suite impériale et il aperçut les visages des deux représentants de la guilde. Il s'adressa alors à Gurney. Ce sont bien les hommes de la guilde, n'est-ce pas, Gurney?
Ces deux gros en gris.
Oui, monseigneur. Vous deux, appela-t-il, la main tendue. Sortez immédiatement de là et renvoyez cette flotte d'où elle vient. Après cela, vous attendrez mon autorisation pour...
La guilde n'accepte pas vos ordres,
lança le plus grand des deux.
Ils s'avancèrent, et sur un signe de Paul, les lances furent levées devant eux. Le plus grand s'adressa de nouveau à Paul en levant le bras.
Vous pourriez bien connaître l'embargo pour cette...
Si j'entends encore une autre absurdité, dit Paul.
Je donne l'ordre de détruire toute la production d'épices d'Arrakis à tout jamais.
Êtes-vous fou?
L'homme de la guilde fit un pas en arrière.
Ainsi, vous admettez que j'ai le pouvoir de le faire?
Demanda Paul. Durant un instant, l'homme parut sonder l'espace du regard, puis il répondit
« Oui, vous pourriez le faire.
Mais vous ne le ferez pas. »
« Ah !» Paul hocha la tête.
« Vous êtes tous deux des navigateurs de la guilde, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Le plus petit ajouta
« Vous aussi, vous seriez aveugle et comme nous condamnés à la mort lente. » Savez-vous seulement ce que cela représente que d'être privé de la liqueur d'épices lorsqu'on y est accoutumé?
L'œil qui choisit le chemin le plus sûr a jamais fermé, dit Paul. La guilde devenue infirme. Les humains formant de petits îlots isolés sur leur planète. Je pourrais le faire, savez-vous, par simple dépit ou par ennui.
Nous devons parler en privé, dit le plus grand.
Je suis certain que nous pouvons arriver à quelques compromis qui...
Envoyez le message à ceux qui attendent au-dessus d'Arrakis, dit Paul. Cette discussion commence à me lasser. Si cette flotte ne repart pas très vite, il sera inutile de discuter plus longtemps. Il se tourna vers les hommes de la radio qui attendaient à l'extrémité du hall. Vous pouvez vous servir de cette installation?
Il faut d'abord que nous discutions, dit l'homme de la guilde. Nous ne pouvons pas simplement envoyer ce message.
Être en mesure de détruire une chose revient à la contrôler de façon absolue. Vous avez admis que je dispose de ce pouvoir. Nous ne sommes pas ici pour discuter, négocier ou atteindre un compromis. Vous allez exécuter mes ordres ou bien vous en subirez les conséquences immédiates.
Il le ferait, dit le plus petit des deux agents.
Et Paul vit qu'ils avaient peur maintenant. Lentement, ils se dirigèrent vers la radio.
« Vont-ils obéir ?» demanda Gurney.
Leur vision du temps se rétrécit. Ils ne voient plus qu'un mur nu où s'inscrivent les conséquences de leur désobéissance. Et à bord de chaque vaisseau, chaque navigateur de la guilde peut voir ce même mur. Ils vont obéir. Il se retourna vers l'empereur. « Lorsqu'ils vous ont permis de monter sur le trône de votre père, ce n'était qu'avec l'assurance que l'épice continuera de se déverser. »
Vous avez trahi votre engagement, Majesté. Savez-vous ce qui vous attend?
Personne ne m'a permis de...
Cessez de faire l'idiot. La guilde est comme un village au bord d'un fleuve. Elle a besoin de l'eau, mais ne peut en prendre qu'un minimum. Impossible de construire un barrage, car cela attirerait l'attention sur ce petit prélèvement. Cela pourrait même amener la destruction. Ce fleuve, c'est l'épice, et j'ai construit un barrage sur ce fleuve. Je l'ai construit de telle façon que vous ne pouvez le détruire sans éliminer le fleuve. »
L'empereur passa la main dans ses cheveux roux et regarda les deux hommes de la guilde.
« Votre Bene Gesserit elle-même tremble, » reprit Paul.
« Il est bien d'autres poisons que les révérendes mères peuvent utiliser pour leur tour, mais quand elles se sont servies de la liqueur d'épices, ces autres poisons restent sans effet. » La vieille femme drapa autour d'elle sa robe informe et s'avança jusqu'à rencontrer les lances.
Révérende mère Gaius Hélène Morhayam, dit Paul.
Bien du temps a passé depuis Caladan, n'est-ce pas? Elle regarda au-delà de lui, en direction de sa mère.
« Eh bien, Jessica, » dit-elle, « je vois que ton fils est bien celui que nous cherchions. Pour cela, il peut être pardonné cette abomination qu'est ta fille. »
Paul réprima la colère froide qui montait soudain en lui.
« Vous n'avez ni droit ni raison pour pardonner quoi que ce soit à ma mère. »
La vieille femme affronta son regard.
« Essayez donc vos tours sur moi, vieille sorcière, » dit-il. « Où est donc votre gomme, Jabbar ? Essayez de plonger votre regard en ce lieu où vous ne pouvez regarder. Vous m'y verrez. »
La vieille femme baissa les yeux.
« N'avez-vous rien à dire ? » demanda Paul.
« Je t'accueille dans les rangs des humains, » marmonna-t-elle. « Ne raille pas. »
Il éleva la voix.
« Observez bien, mes amis. Voici une révérende mère, Bene Gesserit, le plus patient des êtres au service de la plus patiente des causes. Elle a pu attendre avec ses sœurs durant 90 générations que se produise cette idéale combinaison des gènes et de l'environnement, d'où devait naître celui qu'exigeait leur plan. Observez-la bien, mes amis. Maintenant, elle sait que les 90 générations ont passé et que le but est atteint. Je suis là. Mais je ne me plierai pas à son désir.
« Jessica !»
s'exclama la révérende mère.
« Fais-le taire !»«
Faites-le taire vous-même !» dit Jessica.
Paul posa sur la vieille femme un regard flamboyant. « Pour la part que vous avez prise dans tout ceci,
je vous ferai étrangler avec joie, dit-il. Et vous ne pourriez m'échapper. »
Elle se raidit de fureur. Mais je pense qu'il est mieux de vous laisser vivre sans que jamais vous puissiez porter la main sur moi, sans qu'il vous soit possible de me faire agir selon vos plans.
Jessica, qu'as-tu fait?
S'exclama la révérende mère. Je ne vous accorderai qu'une chose, poursuivit Paul. Vous avez su voir en partie quels étaient les besoins de la race, mais combien pauvrement. Vous croyez contrôler l'évolution humaine par quelques accouplements dirigés selon votre maître plan? Vous comprenez bien mal ce que...
« Vous ne devez pas parler de ces choses !»
siffla la révérende mère.
« Silence !» gronda Paul.
Et le mot parut acquérir de la substance sous son contrôle. La vieille femme battit en retraite, le visage blême devant cette puissance qui venait d'agresser sa psyché.
« Jessica » murmura-t-elle. « Jessica !»«
Je me souviens de votre gomme, Jabbar, » dit Paul.
« N'oubliez pas le mien.
D'un mot, je peux vous tuer. »
Tout autour du hall, les Fremen se regardèrent. La légende ne disait-elle pas, et sa parole portera la mort éternelle dans les rangs de ceux qui se dresseront contre le droit. Paul se tourna vers la princesse royale qui se tenait à côté de son père. Il dit, sans la quitter des yeux, « Majesté, nous connaissons tous deux la clé de nos problèmes. » L'empereur jeta un coup d'œil à sa fille, puis revint à Paul.
« Vous osez ? Un aventurier sans famille ?»«
Cessez cette comédie, » dit Paul. « Vous m'avez reconnu comme sujet impérial. Ce sont vos propres paroles. »«
Je suis votre maître, » dit l'empereur.
Paul se tourna vers les hommes de la guilde, qui, immobiles près de la radio, le regardaient. L'un d'eux acquiesça.
« Je pourrais employer la force, » dit Paul.
« Vous n'oserez pas. »
Paul se contenta de le regarder en silence. La princesse mit une main sur le bras de son père.
« Père, » dit-elle, et sa voix était pleine d'une douceur soyeuse, apaisante.
« N'essayez pas vos tours sur moi, » dit l'empereur.
Il regarda sa fille.
« Il est inutile que vous fassiez cela, ma fille. Nous avons d'autres ressources qui... »
« Mais cet homme que voici est fait pour être votre fils, » dit-elle.
La révérende mère, qui avait retrouvé sa dignité, s'approcha de l'empereur et se pencha à son oreille.
« Elle défend ta cause, » dit Jessica.
Paul ne quittait pas des yeux la princesse aux cheveux dorés.
« C'est Irulan, l'aîné, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
Shaini s'approcha.
« Veux-tu que je me retire, Muad'Dib ?
Il la regarda. Te retirer? Jamais tu ne quitteras mon côté.
Il n'existe aucun lien entre nous.
Il baissa les yeux sur elle et lentement répondit « Ne parle jamais que le langage de la vérité avec moi, Masihaya. »
Et comme elle s'apprêtait à répondre, il posa un doigt sur ses lèvres.
« Le lien qui nous unit ne peut se rompre. Maintenant, observe avec attention, car plus tard, je désirerai voir cette salle par les yeux de ta sagesse. » L'empereur et sa diseuse de vérité discutaient à voix basse sur un ton vif. Paul s'adressa à sa mère. Elle lui rappelle que, selon leur accord, il a accepté de laisser monter une Bene Gesserit sur le trône et que c'est Irulan qu'ils avaient pressenti.
C'était donc leur plan?
N'est-ce pas évident? Dit-il.
Je sais lire les signes, dit-elle. Ma question ne visait qu'à te rappeler de ne pas chercher à m'enseigner ce que je t'ai inculqué moi-même.
Paul la regarda et vit s'esquisser un sourire froid sur ses lèvres. Gurney Alec se pencha entre eux.
Je vous rappelle, monseigneur, qu'il y a un Harkonnen dans cette bande.
Il leva le menton vers Feidrofa, qui sur la gauche s'appuyait à une lance.
Celui-là, là-bas. Il a le visage le plus fourbe que j'ai jamais vu. Vous m'avez promis de...
Je te remercie, Gurney, dit Paul.
C'est le nain baron. Il est baron maintenant que le vieil homme est mort. Il conviendra très bien à ce que je...
Tu peux le vaincre, Gurney?
Monseigneur plaisante.
Cette discussion entre l'empereur et sa sorcière a suffisamment duré. Ne croyez-vous pas, mère? Elle acquiesça.
Oui, certainement.
Paul éleva la voix. Majesté, y a-t-il un Harkonnen parmi ces gens? L'empereur se détourna avec un royal mépris pour lui répondre.
Je croyais que ma suite était placée sous la protection de la parole ducale, dit-il.
Ma question n'appelait qu'un simple renseignement, dit Paul. Je voulais savoir si un Harkonnen faisait officiellement partie de votre suite ou s'il s'y cachait par lâcheté. L'empereur eut un sourire calculé.
Quiconque est accepté dans ma suite est membre de mes gens.
Vous avez la parole d'un duc, dit Paul. Mais cela ne saurait concerner moi, Dib. Lui, il n'a pas connaissance de ce que vous entendez par vos gens. Mon ami Gurney souhaite tuer un Harkonnen.
Si...
Rétribution! Cria Feidrofa. Il essaya de repousser la lance.
C'est le mot qu'a employé votre père Atreide. Vous me traitez de lâche, alors que vous vous cachez parmi vos femmes et que vous envoyez un laquais contre moi.
La révérende mère chuchota quelques paroles sur un ton vif à l'oreille de l'empereur, mais il la repoussa et dit
« Rétribution, vraiment ? Les règles de la rétribution sont strictes. »
« Paul, mets un terme à cela, »
dit Jessica.
« Monseigneur, » dit Gurney, « vous m'avez promis que j'aurai mon heure face au Harkonnen. »
« Tu as eu toute une journée, » dit Paul, et il sentit que ses émotions refluaient sous l'impulsion. Il ôta sa robe et son capuchon et les tendit à sa mère avec sa ceinture et son kris, avant d'enlever son distille. Tout l'univers se concentrait sur cet instant. Il le sentait.
« Paul, c'est inutile, » dit Jessica. « Il existe d'autres moyens, plus faciles. »
Il se débarrassa de son distille et sortit le kris du fourreau que sa mère serrait dans ses mains. « Je sais, » dit-il. « Le poison, les assassins, tous les moyens habituels. »
« Vous m'avez promis un Harkonnen, » souffla Gurney.
Paul lut la fureur sur le visage de son compagnon. Il vit que la cicatrice de Vinancre était sombre sur sa mâchoire.
« Vous me le devez, monseigneur. »«
As-tu plus souffert d'eux que moi ?» demanda Paul.
« Ma sœur, » dit Gurney d'une voix rauque, « les années que j'ai passées dans leur puits d'esclaves,
mon père, mes amis, mes compagnons, Tufir Hawat, et Duncan Idaho, ces années où je n'étais plus qu'un fugitif sans aucun rang. Autre chose encore, Gurney. Il s'agit maintenant de rétribution, et tu en connais aussi bien que moi les règles. Les épaules d'Alex s'affaissèrent.
Monseigneur, si ce porc, ce n'est rien de plus qu'une bête. Vous pourriez l'écraser aux pieds et jeter ensuite votre chaussure, car elle serait contaminée. Appelez un bourreau si vous le désirez, ou laissez-moi faire. Mais ne vous offrez pas vous-même pour cette...
Mouad Dib n'a aucune raison de faire cela, dit Shiny.
Il la regarda et lut la peur dans ses yeux.
mais le duc Paul, lui, en a une.
Ce n'est qu'une bête harconnaine, gronda Gurney.
Paul hésita. Il était sur le point de révéler son ascendance harconnaine, mais il en fut empêché par le regard acéré de sa mère, et dit simplement « Mais cette chose a forme humaine, Gurney, et doit bénéficier du doute humain. »
« S'il est assez pour... »
commença Gurney.
« Je t'en prie, tiens-toi à l'écart, » dit Paul.
Il leva son cris et repoussa doucement Gurney.
« Gurney, »
dit Jessica. Elle lui toucha le bras.
« Il est comme son grand-père. Ne le distrayez pas. C'est tout ce qu'il vous reste à faire pour lui maintenant. »
Et elle pensa, « Grande-mère, quelle ironie !»
L'empereur observait Feidrofa, ses épaules lourdes, ses muscles épais.
Puis il se retourna vers Paul et vit ce corps mince, noueux, qui n'était pas aussi ascétique que celui d'un Fremen, mais dont on voyait les côtes au-dessus des flancs creux. Le jeu des muscles était parfaitement visible sous la peau tendue. Jessica se pencha vers son fils et murmura pour lui seul,
« Encore une chose, fils. Parfois, les gens dangereux sont préparés par le Bene Gesserit. Un mot est implanté dans les couches profondes de leur esprit, selon la vieille méthode de la souffrance et du plaisir. Le mot le plus fréquemment utilisé est « Uroshnor ». Si celui-là a été préparé, et je pense qu'il l'est, il suffit de prononcer le mot près de son oreille pour que ses muscles deviennent flasques et
« Je n'ai besoin d'aucun avantage spécial, » dit Paul. « Écartez-vous, mère. »
« Pourquoi fait-il cela ?» demanda Gurney à Jessica.
« Pense-t-il être tué et devenir ainsi un martyr ? Est-ce que tout ce radotage religieux des Fremen lui a obscurci la raison ?»
Jessica mit son visage dans ses mains, prenant conscience soudain qu'elle ignorait ce qui poussait Paul à agir ainsi. Dans cette salle, elle pouvait sentir la mort partout, et elle savait maintenant que ce Paul nouveau, transformé, était capable de ce que suggérait Gurney. Elle concentrait tous ses talents sur le désir qu'elle éprouvait de protéger son fils, mais il n'était rien qu'elle pût faire.
« Est-ce que c'est ce radotage religieux ?» demanda Gurney.
« Silence !» murmura-t-elle. « Priez !»
Brusquement, un sourire apparut sur le visage de l'empereur.
« Si tel est le désir de Feidrofa, de ma suite, » dit-il, « je le libère de tout lien et le laisse libre d'agir à son gré. »
Il leva la main à l'adresse des Fedaikin de Paul.
L'une de vos canailles détient ma ceinture et mon poignard. Si Feidrofa le désire, il peut vous affronter avec ma propre lame.
Je le désire, dit Feidrofa.
Et Paul lut nettement une expression de soulagement sur son visage.
Il est trop confiant, songea-t-il.
C'est un avantage naturel que je peux accepter.
Posez la lame de l'empereur sur le sol, là, ordonna Paul, en désignant un endroit précis du bout de son pied tendu.
Que la racaille impériale se replie jusqu'au mur et que l'Harkonnen demeure seul. Des voix murmurèrent, protestèrent. Dans un froissement de robe, un piétinement sourd, on obéit à Paul. Les hommes de la guilde demeurèrent à proximité de la radio, observant Paul d'un air indécis.
Ils ont l'habitude de voir l'avenir, se dit Paul. Mais ici, en cet instant, ils sont aveugles. Aussi aveugle que moi.
Et il essaya de sonder les vents du temps. Il perçut le tourbillon, le nexus, dont le centre était l'instant présent, ce lieu précis. C'était le djihad, il le savait. Le djihad qui était encore à naître. La conscience raciale qu'il avait autrefois décelée comme un but terrible. C'était assez pour que le Kwisatz Haderach ou le Lichan al-Raïb survienne. Assez pour qu'il soit mis un terme au plan Bene Gesserit. La race des humains avait pris conscience de sa stase malsaine et elle ne voyait qu'une issue. Le tourbillon qui brasserait les gènes et d'où surgiraient de nouveaux mélanges. En cet instant, tous les humains ne formaient qu'un seul organisme inconscient qui ressentait un besoin sexuel susceptible de renverser n'importe quelle barrière. Et Paul comprit la futilité de ses efforts pour modifier même en partie ce qui se passait. Il avait cru pouvoir s'opposer au djihad seul. Mais le djihad serait. Même sans lui, les légions fondraient sur l'univers depuis Arrakis. Il ne leur fallait que cette légende que, déjà, il était devenu. Il avait montré la voie. Il leur avait permis de dominer la guilde elle-même,
qui avait besoin de l'épice pour survivre.
Il eut le sentiment d'un échec, puis vit que Feidrofa avait ôté son uniforme déchiré pour apparaître vêtu d'un simple corset de combat à côtes de maille.
« C'est le moment décisif, » se dit Paul. À partir d'ici, l'avenir s'ouvre, les nuages s'écartent pour livrer passage à une sorte de jour glorieux. Si je meurs, ils diront que je me suis sacrifié afin que mon esprit les guide. Si je vis, ils décideront que rien ne peut s'opposer à Muad'Dib.